désespoir tue l'inspiration. Faut pas se laisser aller. La vie est trop courte, jamais abandonner. Faut garder sa route.
Dire que je n'ai pas
le courage, c'est comme tout abandonner.
Dire que je ne peux pas,
c'est comme balayer la chance qui m'était donnée.
Dire que je n'ai pas
la force, c'est comme tout abandonner.
J'ai survécu jusqu'ici, oh oh.
C'est pas pour tout recommencer.
Puis tous à la recherche de gloire, c'est la rue et vers l'or. Échapper au quotidien, sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, oh non. Lève ta main et crie victoire. Pourquoi toujours penser que ça ne peut t'arriver qu'aux autres? Se dire que tant pis, on n'a pas de chance et la vie essaie de sa faute. Faut pas se laisser aller. On est jeune, l'avenir est devant nous. Jamais abandonner, c'est plus fort que tout. Dire que je n'ai pas
le courage, c'est comme tout abandonner.
Dire que je ne peux pas,
c'est comme balayer la chance qui m'était donnée.
Dire que je n'ai pas
la force, c'est comme tout abandonner.
J'ai survécu jusqu'ici, oh oh.
C'est pas pour tout recommencer.
Puis tous à la recherche de gloire, c'est la ruée vers l'or. Échapper au quotidien, sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, oh non. Lève ta main et crie victoire.
C'est pour mes frères, mes sœurs dans les quartiers. Yeah.
Lève ta main et crie victoire.
C'est pour ceux qu'on oublie les postes de demain, les stars de demain.
Lève ta main et crie victoire.
La blondeur qui n'ont peur de rien, qui n'ont le cœur à rien parce que le crime paye trop bien. Lâche l'affaire, oh mais choisis tes pères, oh mais positionne-toi.
Lève ta main et crie victoire.
J'ai tous à la recherche de gloire, c'est la rue et vers l'or. J'admets au quotidien, sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, oh, oh. Lève ta main et crie victoire. J'ai tous à la recherche de gloire, c'est la rue et vers l'or. Sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, oh non. Lève ta main et crie victoire.
Alors, rebonjour, vous êtes sur Onde FL, la radio 100% lycéenne. Nous allons écouter Néloïs et Anthony nous parler d'automobile. On vous écoute.
Bah, merci bien déjà de nous laisser l'antenne. Bonjour. Et puis, bonjour Nélo, du coup.
Bonjour Anthony.
Bon bah donc là aujourd'hui on va parler de Formule 1. Donc je vais poser quelques questions à Léno parce que apparemment c'est un expert de la Formule 1. C'est une machine de connaissances. Donc première question Nélo, je vais parler circuit. Très je vais bien. Te dire quels sont les circuits les plus connus.
Alors pour moi l'un des plus emblématiques qui représente en tout point la Formule 1, c'est le circuit de Monaco qui évidemment connu dans le monde entier, qui est sûrement le circuit le plus prestigieux. C'est aussi le plus cher, où il y a le plus d'investissement, où beaucoup de personnes très riches viennent le voir. Il n'est pas forcément très, très impressionnant en termes de dépassement, mais par contre, en termes de performance de pilote, c'est les pilotes généralement en retour de course. Quand ils ressortent de cette course et de leur voiture, ils ont perdu à peu près 3 kilos. Ce qui est quand même très énorme, mais c'est surtout en temps de grande chaleur à Monaco. Généralement, les pilotes sont. C'est un circuit très physique et très impressionnant à voir.
Ils sont en sueur, quoi.
Ah oui.
Aïe, 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 aïe. Bon, un peu de voiture, du coup. La Formule 1, ça fonctionne comment, en gros ?
Eh ben, c'est simple, une Formule 1, on va parler d'abord à l'époque. À l'époque, les Formule 1, c'était très simple. C'était un gros moteur, très puissant. Et généralement aux alentours de 1000 chevaux. Et aux alentours
c'est beaucoup,
aussi de
1000 chevaux. Hein.
Ah, c'est énorme, c'est une puissance démontée, c'est démesuré pour une voiture. Et ça se rapprochait, généralement, la voiture se rapprochait des 1000 kilos.
D'accord.
Et puis généralement, une voiture, ça ne fonctionne pas de 36 solutions. C'est généralement, les Formule 1 fonctionnaient en propulsion, avec des roues avant directrices. Et généralement, la puissance à l'époque faisait tout. toute la voiture, mais maintenant, à l'heure actuelle, on peut parler maintenant d'aérodynamique, qui est maintenant, on va dire, très présente dans la Formule 1, qui est même complètement présente, car maintenant, les voitures sont généralement, pour l'écologie, fait avec un V6 hybride, ce qui ne réduit pas les capacités de la voiture, qui au contraire les augmente, car l'aérodynamique maintenant participe beaucoup avec beaucoup plus d'entrée d'air, beaucoup plus avec un fond plat aussi qui participe beaucoup. Donc on peut parler maintenant que la Formule 1 a quand même nettement évolué et que une voiture, ça ne fonctionne pas par 36 solutions, c'est des roues qui dirigent et des roues qui poussent. Quoi.
J'aurais une petite question à vous poser.
Oui.
1000 chevaux, ça équivaudrait à combien en vitesse de pointe pour une voiture ?
Alors, il faut dire que le chevaux, ce n'est pas en fonction de la vitesse, ça ne doit pas... Je vais parler de rapport poids-puissance, car on va dire une voiture avec un rapport poids-puissance de une Formule 1
actuelle, pour un, du coup.
Je vais prendre l'exemple de la Ferrari de cette année, qui était aux alentours de 795 kg, qui faisait plus de 914 chevaux. Donc on va dire que malgré cette puissance de chevaux, elle allait quand même à 356 km/h, qui est énorme. Alors que d'autres voitures, on va dire qui, évidemment, quand il y a des chevaux, va y avoir beaucoup de vitesse. Mais certaines voitures qui ont moins de chevaux peuvent aller au-delà de cette vitesse de 356 km/h, car les voitures, toute voiture est différente, la transmission, il y a aussi la boîte de vitesse qui est très importante, surtout en Formule 1. Donc on va dire le chevaux, c'est assez relatif.
C'est très vague, il y a beaucoup de critères
à prendre en compte.
D'accord,
c'est
ok.
Les voitures sont différentes.
Du coup, les freins sur une Formule 1, ça doit freiner fort quand même, vu les circuits.
Généralement, au freinage, tout dépend des circuits, les freins sont réglables. C'est-à-dire on peut régler en fonction du circuit, de la matière de la piste, comment le béton va être, comment ça va être. Tout ça va être pris en compte par les techniciens.
D'accord.
Et donc les freins vont être changés. Et généralement, les pilotes, à chaque freinage en bout de ligne droite, ils prennent aux alentours de 5G. Qui équivaut à 5 fois leur poids.
Mais c'est énorme. Physiquement, ils font comment ? Du coup, ils se préparent ? Il y a quelque chose ?
Physiquement, ils ont énormément de préparation. De toute façon, dans ce sport, pour en arriver à la Formule 1, qui est la discipline reine des sports automobiles, pour en arriver à ce stade, il faut passer déjà par beaucoup d'endroits, par exemple la Formule 4,
d'accord,
qui forme les plus jeunes pilotes. Après, une fois que la Formule 4 a été passée, il y a la Formule 3, qui est beaucoup plus intense et physique. Là, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans les vraies préparations avec des machines maintenant, car il y a des machines maintenant d'entraînement pour reproduire un peu la force du volant.
Il y a de la simulation, il y a quelque chose.
Il y a énormément de simulations. Chaque écurie de Formule 1 a son système de simulation différent. Il n'est pas révélé, c'est-à-dire que c'est secret. C'est l'un des plus gros secrets de la Formule 1, c'est les simulateurs. Car généralement, les simulateurs sont réglés à la voiture de la saison prochaine.
Ah, juste pour parler de saison, il y a une saison en 2023 là, qui arrive.
Ah, évidemment, il y a une saison en 2023 et toutes les écuries y sont préparées. Il y a déjà au début de la saison 2022, tous les ingénieurs et tout ont déjà tout préparé pour la saison 2023. Les voitures sont presque prêtes, presque finies. Il ne manque plus que faire des tests, avoir aussi les résultats de la Formule 1 de 2022 pour voir si forcément, ça s'inspire beaucoup parce qu'on ne crée pas une voiture en 2 secondes. Quoi.
Il faut d'abord prendre en compte tout. Tout est calculé.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, généralement, les voitures sont déjà prêtes à l'avance, en tout cas dans les grandes lignes. Après, il ne manque plus qu'à faire des tests. Et voilà, quoi. Mais la saison 2023 prévoit beaucoup de choses.
Ok, et il y a des Formule 1 qui ont marqué l'histoire ou pas ? Même des pilotes
Alors là, il y en a énormément. Il y a, par exemple, en termes de Formule 1, il y a la McLaren, la Marlboro Project 4, qui est plus communément appelée la MP4, qui a fait son temps en il me semble, 1990, avec Ayrton Senna et Alain Prost,
d'accord,
qui ont roulé dans cette Formule 1 et qui a été, 1990, l'un des championnats les plus controversés, car il s'est passé quand même énormément de choses. C'était
très
tendu, Anthony. Il y avait aussi la F2004, la Ferrari, qui
d'accord
est, je pense, en Formule 1, c'est la voiture la plus puissante et jamais conçu avec 1011 chevaux pour 1000 kilos, ce qui est, comme on parlait tout à l'heure du rapport poids-puissance, là, pour le coup, c'est vraiment énorme. Il y a aussi, l'année d'après, la R25,
d'accord,
qui est, elle, la Renault, C'est une Renault R25, car Renault a couru en Formule 1.
Et ils font plus maintenant, Renault ?
Alors, Renault, maintenant, a été, racheté. Pas vraiment racheté, puisque ça appartient toujours un petit peu à Renault, mais a été racheté par Alpine. Alpine, okay. Qui maintenant... Renault a été racheté en 2019, il me semble, par Alpine. Et cette écurie, Renault, a été légendaire dans Formule 1, a gagné de nombreux grands prix, a même remporté deux championnats du monde légendaires avec Fernando Alonso.
Un grand coureur, Alonso, non ?
Alonso, très grand pilote, qui a combattu et qui a eu des rivalités avec les plus grands, comme Michael Schumacher.
D'accord.
Mais aussi Lewis Hamilton, Nico Rosberg, mais des très grands pilotes qui ont marqué leur temps.
D'accord. Mais justement, là, j'avais envie de revenir sur Alain Prost et Ayrton Senna. Il y a une rivalité entre eux, j'ai entendu parler de ça.
Alors, il faut savoir que Alain Prost, quand Senna est arrivé en 1988, Alain Prost était déjà très implanté en Formule 1 et était déjà, rentré dans la légende.
Ancien.
En étant, exactement, c'est un ancien, on va dire. En étant déjà rentré dans la légende par. On va dire qu'il était très très proche des ingénieurs et sa voiture, généralement, en qualification, je vais expliquer, les qualifications, c'est avant la course, le jour d'avant, généralement, il y a des qualifications pour établir la grille de départ.
D'accord.
Donc c'est le meilleur temps par premier et ainsi de suite. Et donc Alain Prost, généralement, réglait ses voitures pour faire en sorte qu'en qualification, elles soient pas très performantes, mais qu'en course, comme une course, c'est généralement... plus d'une heure, voire une heure et demie.
Donc, c'est assez long.
C'est très très long. Il réglait ses voitures lui-même, avec ses ingénieurs, okay. ce qui n'avait jamais été vu en Formule 1 à l'heure actuelle. Même à l'heure actuelle, il n'y en a plus. C'est des
oui, on
n'y
verra plus des Alain
voilà,
Prost.
Voilà, des Alain Prost, il n'y en aura plus. Et il réglait ses voitures avec ses ingénieurs pour qu'elles soient très performantes en course. Et c'est grâce à ça qu'il a pu gagner en, il me semble, 85 et 86. Et après, quand Ayrton Senna est arrivé, il y a eu la plus grande rivalité de l'histoire de la Formule 1 qui était entre Alain Prost et Ayrton Senna.
D'accord. Bon, on va juste faire une petite pause avant de continuer cette interview. Donc, on va mettre Rock You Like a Hurricane de Scorpion.
Like a sun comes out. Last night was shaking really loud. Get his furry, scratch my skin. So what is wrong with another sin?
Alors, rebonjour, nous écoutons la suite d'Anthony et...
Nello, pardon,
excusez-moi. Merci. Allez-y.
Bon, bah, du coup, mon petit Nello, on va reprendre. Hein. Donc, moi, de ce que je vais te parler, là, c'était l'histoire entre Alain Prost et Senna. Je voudrais plus d'explications parce que ça a l'air vachement intéressant, quand même.
Alors, il faut savoir que Prost et Senna, c'est avant tout deux hommes qui se détestaient profondément sur le circuit et en dehors.
D'accord.
Il faut savoir que Senna, dès qu'il est arrivé, a fait directement son effet et a séduit le public. Et le public l'a même surnommé Magic Senna, car sur la piste, il était vraiment magique, il faisait des actions que personne n'aurait tenté. Et ce qui fait que ça a éveillé un petit peu quand même la jalousie de Prost, qui était au début un peu le favori de McLaren.
D'accord.
Et dès que Ayrton Senna est arrivé chez McLaren, il a fait directement son effet, ça n'a pas vraiment plu à Prost.
Donc il Prost, était jaloux.
Il était très très jaloux, sachant que Prost était très réputé pour être malin sur la piste, mais un petit peu jaloux et un petit peu vicieux en dehors. Donc forcément, Alain Prost a commencé à reprocher des choses, comme des modifications sur la voiture de Senna, des choses comme ça. Et donc Senna, comme on va dire, il venait d'arriver, c'était un petit peu un enfant sur le circuit. Et, forcément, il faisait le retour, mais en 10 fois pire, en disant des choses... non seulement à la sortie des courses, mais aussi quand il était en interview à la télé, comme quoi Prost était un manipulateur chez McLaren. Donc forcément, dès la première année où ils ont été en rivalité ensemble, et ben forcément, ça a direct un petit peu chauffé sur le circuit. Et donc, à la fin de cette année 1988, il s'est passé un événement qui a été très très grave. C'est-à-dire que Prost était quand même sur la dernière course.
D'accord, c'est quel circuit ?
Il me semble que c'était au Japon. Il me semble que c'était au Japon, oui. Et donc, on va dire, dans les derniers tours, Senna avait l'impression que Prost, qui était devant lui, prenait vraiment beaucoup, beaucoup de distance. Et il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, c'est à ce moment-là que vraiment...
les calculs n'étaient pas bons.
Exactement. On va dire qu'il a... Il a oublié de freiner au bout de la chicane et donc a foncé dans Prost.
D'accord, donc c'était volontaire en fait.
Et donc c'était complètement volontaire et il l'a avoué même des années plus tard quand Prost est parti, a pris sa retraite.
D'accord.
Il lui a foncé dans le côté et pour faire en sorte que lui puisse repartir mais que Prost, sa course soit terminée.
Mais c'est autorisé ça, ce genre d'action? Non, c'est interdit par le règlement.
Évidemment, maintenant c'est interdit, c'est formellement interdit, mais à l'époque, ils n'avaient pas les moyens déjà de vidéo ou d'autres choses pour pouvoir bien voir ce qui s'était passé. Et donc, de l'extérieur, on voyait juste que Senna avait oublié de freiner ou qu'il avait eu un problème de frein. Et
d'accord.
Ça a donné cette impression.
Mais la voiture de Senna, on sait si elle a vraiment été trafiquée par les ingénieurs ou pas ? Ou c'était juste Prost qui était meilleur ?
Eh bien, il s'est avéré plus tard que Senna, étant donné que c'est des modifications minimes, ce n'est rien par rapport à d'autres choses que maintenant, à l'heure actuelle, certaines écuries ont fait.
D'accord.
Mais en tout cas, Prost, ce qu'il a dit était vrai, mais... ça n'aurait rien changé à l'issue, car c'était des petites modifications vraiment.
D'accord, c'était juste pour l'embêter, quoi.
Voilà, c'était juste pour l'embêter un petit peu, quoi.
Ok, ok. Juste comme ça, à cette époque-là, il y avait quoi comme moteur dans les Formule 1 Parce que je sais qu'il y a eu des grands moteurs en Formule 1 qui ont fait beaucoup de bruit.
Alors, à cette époque, il me semble que la McLaren MP4 était doté d'un V12, si je ne me trompe pas.
C'est énorme.
C'est vraiment énorme. Mais bon, ça allait quand même beaucoup moins vite, car manque d'aérodynamique.
Ouais.
Et qu'avant, on faisait plus confiance au moteur que à maintenant.
Ah oui, d'accord. Oui, tout est optimisé.
C'est ça, tout est optimisé. Donc voilà.
Ok. Bon, je vais juste te demander les accidents marquants et on pourra arrêter cette émission après.
Eh bien, les accidents marquants sont avant tout l'accident au Nürburgring de Niki Lauda. C'est un événement qui a fait en sorte de complètement arrêter cette course sur le Nürburgring, qui est un circuit légendaire. Car, on va dire, ce jour-là, il avait plu. Déjà, il avait plu. En plus, il y avait des barrières en béton sur les côtés de la piste.
Ah, c'est un peu dangereux quand même, des barrières en béton.
Ah bah oui, et surtout qu'il y avait beaucoup de collines sur ce circuit, il y avait des montées, des descentes, et quand on va à plus de 200 km/h et que dans une montée...
C'était un fond plat en dessous.
Ce n'était pas totalement plat, pas comme maintenant, mais en tout cas, c'est assez pour avoir fait un petit peu voler la voiture et qu'il se soit encastré dans le béton. Et donc, ça a marqué beaucoup l'histoire de la Formule 1, ce qui a aussi éveillé beaucoup de réglementations maintenant. Des réglementations de sécurité, principalement, qui est comme l'une d'elles, à cause de d'autres accidents, le halo de sécurité.
D'accord.
Qui est maintenant très répandu et qui est
obligatoire.
Obligatoire, qui a sauvé plus d'une vie.
Récemment, Leclerc a eu un accident, il me semble, et ça
l'avait
sauvé.
Leclerc avait eu un accident en 2018.
Ouais.
Et un autre à Monza, entre Hamilton et Verstappen. Au final, à la dernière course de la saison, c'était très très serré comme championnat, car ils se sont retrouvés à égalité de points. Donc,
d'accord.
Tout s'est joué sur la dernière course, et cette course à Monza a beaucoup influé, car ils se sont, à cause d'une erreur d'un des pilotes, ils se sont tous les deux retrouvés dans le bac à gravier.
D'accord, on va arrêter notre émission avec Nello, donc je te dis au revoir Nello.
Ouais, moi aussi je te dis au revoir Anthony. Ouais.
Et puis... Donc là, le son, c'est un titre de Scorpion, Sting Loving You.
Nous sommes de retour à l'antenne On Défait, la radio 100% lycéenne. Aujourd'hui, nous allons voir Gabin qui va nous parler d'une célèbre licence de jeux vidéo nommée Assassin's Creed. Gabin, nous t'écoutons.
Salut à toutes et à tous. Je m'appelle Gabin. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une série de jeux vidéo à laquelle je joue depuis maintenant plusieurs années. Je parle évidemment de la saga Assassin's Creed, donc une saga très connue dans les joueurs. Une saga qui a vu le jour en 2007 dans un studio d'Ubisoft. Alors, il faut savoir qu'au début, que la saga est née, on va dire, un peu par accident, parce qu'en gros, à la base, Ubisoft développait un Prince of Persia. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte au moment de le développer que le jeu se concentrait trop sur un personnage secondaire. Et donc, ils ont décidé, sur ce personnage secondaire, qu'à partir de ce personnage secondaire, ils allaient faire un jeu à part. Une nouvelle saga, une nouvelle licence, qui viendra la licence phare d'Ubisoft, Assassin's Creed. Donc en 2007 sort le premier Assassin's Creed qui se déroule au Moyen-Orient, avec une histoire très simple où on incarne un jeune héros du nom de Altaïr qui doit combattre des oppresseurs templiers qui luttent, qui essayent d'instaurer la paix par le contrôle, la manipulation et la corruption. Alors que les assassins, eux, essayent plutôt d'instaurer la paix et l'égalité via la liberté des peuples.
Oui, mais bon, en soi, les assassins, ils font pas ça gentiment non plus, non ? Ils portent bien leur nom quand même, non ?
Oui, alors les assassins, effectivement, ils éliminent un peu tout ce qui s'oppose à eux. Donc en général, ce sera des dirigeants, Des gardes, enfin des soldats, tout, sauf les civils. Ils ne doivent pas tuer les civils parce que, en fait, ils ont un credo. Et dans leur credo, en fait, ils disent juste on tue ceux qui doivent être tués. Donc, en gros, nos ennemis.
D'accord.
Tous ceux qui s'oppressent, enfin, ceux qui sont contre la liberté des peuples.
Ça ressemble à un peu une guerre d'idéaux.
Oui, c'est une guerre d'idéologie, oui. Il y en a qui veulent la paix par le contrôle et la manipulation. Il y en a d'autres qui veulent la paix par la libération.
Un peu la violence.
Ouais, voilà. Et la libération se fait par la violence, oui, tout à fait.
Tout sauf
D'accord.
démocratique, quoi.
Ouais, tout sauf enfin, tout sauf de la démocratie, effectivement.
Assassin's Creed 2, ça se passe où? Il se
Alors,
passe quoi dedans?
dans Assassin's Creed 2, on incarne un jeune homme du nom d'Ezio qui va justement commencer une très longue vie d'assassin, en fait, puisqu'il va en mourir en tant qu'assassin à l'âge de 67 ans.
Oui, t'es pas jeune quand même.
Ouais, voilà. Et donc, en fait, il a passé toute sa vie en tant qu'assassin à combattre justement ses ennemis à travers toute l'Europe. Donc, il est né à Florence, il a été à Rome pour combattre Caesare Borgia, un roi de Rome un peu tyrannique qui a réellement existé pour le coup. Il a aussi été à Istanbul. Du coup, ouais, c'est Istanbul aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelait Constantinople.
Ah, d'accord.
Pour combattre contre les Ottomans, il me semble.
Ok, mais du coup, vu que tu me parles de vrais rois, ils ont demandé de l'aide à des historiens, Ubisoft, ils ont fait quoi?
Alors oui, Ubisoft, il travaille en fait beaucoup avec des historiens, parce qu'il passe une majeure partie, en fait tout le début, on va dire, du développement du jeu, il travaille uniquement avec des historiens pour se renseigner en fait sur l'époque, comment les gens vivaient, les événements qu'il y a eu à l'époque, ce qui se passait, ce que les gens pensaient. Pour savoir, en fait, il faut mettre le jeu vraiment, comment dire, en pleine situation, quoi.
C'est
D'accord,
comme une
ouais,
seconde histoire.
Ouais, c'est en gros, c'est présenter l'histoire d'une ville, enfin, ou d'un pays à une époque précise.
ok, mais
Histoire
juste,
vraie avec un peu d'imaginaire dedans.
Oui, bien sûr, mais
il y a de la
petit.
fantaisie, quoi.
Oui.
Mais juste comme ça, y a pas un rapport avec le monde moderne dans Assassin's Creed? J'y ai joué un petit peu et je voyais du monde moderne aussi.
Alors oui, en fait, l'histoire d'Assassin's Creed est assez compliquée parce qu'elle se déroule sur plusieurs millénaires. C'est une histoire, en gros, qui commence, on va dire, en Grèce et qui se termine, il me semble, qui se termine pas encore et continue toujours, d'ailleurs, l'histoire. Et en gros, c'est une histoire d'une famille qui fait toujours partie de la lignée des assassins, avec des personnages, du coup, enfin, un personnage particulier qui s'appelle Desmond, qui est mort le 21-12, enfin, le 21 décembre 2012,
Oui.
donc la fin du calendrier Maya. Alors,
Ah.
il meurt dans l'épisode 3, mais je sais plus comment.
D'accord. Et en rapport avec l'Assassin's Creed 3, il y a quoi dedans?
Alors dans Assassin's Creed 3, en fait, ça raconte l'histoire de la Révolution américaine. Donc, des combats enfin, pour que les Américains prennent leur indépendance. Donc, là-dedans, pareil, il y a des faits historiques, hein, des personnages historiques comme George Washington, la déclaration. Comment ça s'appelle?
Déclaration d'indépendance.
Ouais, voilà, c'est ça, oui. Du coup, il y a la guerre d'indépendance, la Boston Tea Party aussi.
D'accord.
Et donc là-dedans, dans ce jeu, on y incarne un Amérindien du nom de Connor qui va rejoindre la confrérie à ses 13 ans.
Ok, mais du coup, là, dans Assassin's Creed 3, c'est le premier qui a des jeux avec des armes à distance.
Non. Parce que le premier jeu à avoir des armes à distance, c'était le 2.
D'accord.
Parce qu'on avait, il me semble, une sorte d'arbalète où on pouvait du coup tirer sur les soldats.
D'accord. Bon, et le prochain jeu, du coup, le 4, il me semble qu'il a un deuxième nom, c'est Black Flag.
Black Flag, oui. Alors
D'accord.
Black Flag se déroule du coup pendant l'âge d'or des Caraïbes, donc 1718-1720. Donc on y retrouve au début un jeune Gallois un peu arrogant qui est opportuniste, oui, qui aime uniquement l'argent et les femmes, et qui va vraiment changer de mentalité en fait après avoir perdu tous ses proches, notamment la femme qu'il aime. Et justement, en fait, à la fin du jeu, on apprend que celui-ci a une fille.
D'accord, ok. Et il y a un 5, il y a quelque chose, il y a des
Alors,
suites?
oui, il y a des suites. Il y a des suites, en fait. Alors, il y en a eu deux dans la même année. Il y a eu Unity et le Rogue. Alors, le Rogue qui est moins connu, qui reprend un peu l'histoire de Black Flag. Enfin, pas l'histoire, mais en gros, le Rogue, il fait la guerre de 7 ans, donc 1756-1763. Et là-dedans, on y retrouve Shay Party Cormac, un Irlandais qui va rejoindre, enfin qui est au début un assassin, mais qui lui va rejoindre les ennemis des assassins, les Templiers.
D'accord, donc dans le jeu, on voit la transition d'un assassin à un Templier ou
Ah oui, on voit la transition, oui.
Ok, et du coup, à part ça, dans les Assassin's Creed, il y a autre chose que des jeux vidéo ou
Oui, oui, il y a un film qui est très mauvais, hein, qui raconte l'histoire d'un Espagnol qui va devoir ramener un artefact à Christophe Colomb pour que lui puisse le ramener en Amérique.
C'est un peu tiré par les cheveux, non?
Oui, c'est complètement tiré par les cheveux, oui. Et puis, le jeu d'acteur n'est pas bon du tout.
D'accord, il y a des livres, il y a autre chose?
Est-ce que le film a été canonisé ou pas?
Oui, il me semble. Oui.
Très mauvaise nouvelle, je suis désolé.
Oui, je sais.
Ça m'a mal au cœur.
Alors oui, sinon, il y a aussi des livres, des mangas, des comics. Il y a aussi des courts-métrages, enfin des petits films d'animation d'une heure à peu près. Nous racontant l'histoire, du coup, des histoires de certains personnages que l'on ne connaissait pas avant, mais qui sont très importants dans la série.
D'accord. Et sinon, bah, la suite des Assassin's Creed après Rogue et Unity et quoi?
Alors après, on a eu Syndicate, qui lui faisait la révolution victorienne.
D'accord, donc
c'est au Royaume-Uni.
Okay.
C'est à Londres, plus précisément. Il n'est pas bon du tout. Rien n'est bon dans celui-là.
D'accord, même niveau réalisme.
Ouais, non, rien n'est bon, même niveau personnage, dialogue, rien du tout n'est bon.
D'accord,
j'ai même pas eu le cœur de le finir.
Ah, ça fait mal au cœur quand même. Oui.
Et donc, il me semble que c'est 3 ans après, on a eu du coup en 2017 Assassin's Creed Origins, qui était tout nouveau à l'époque. En gros, ça prenait vraiment une direction plus RPG que la série en fait essayait de prendre depuis Unity, me semble.
D'accord.
Sauf qu'elle faisait une transition lente et là, Origins arrive et c'est
d'un coup, paf.
Ouais, plein de RPG dans ta gueule. Pardon. Et du coup, Origins nous présentait un jeune héros qui venait de perdre son fils, mais il s'appelle Bayek.
D'accord.
Et du coup, Bayek va essayer de venger son fils en tuant tous les hommes d'un ordre qui ont participé à la mort de son fils.
D'accord, mais ça se passe où, celui-là?
Alors, ça se passe en Égypte antique, avant la conquête de Rome. Enfin, avant que l'Égypte se fasse envahir.
Ok, ouais, je vois. Mais du coup, cette époque-là, c'est pas plus vieux que la Grèce? Parce que tu m'avais parlé de Grèce.
Si, si. Et justement, il y a une autre époque aussi en Grèce. Alors, ça prend place pendant la guerre du Péloponnèse. Donc, guerre pas du tout connue.
Non, mais vas-y, je t'écoute. Hein,
ok, donc c'est une guerre qui oppose Sparte à Athènes. Donc, c'est après l'invasion des Perses en Grèce. Donc, les Grecs repoussent les Perses. Et à un moment, du coup, les cités grecques, parce qu'à l'époque c'était plein de cités, décident de s'unir.
Okay.
Et donc à un moment, y a les Spartiates qui essayent de prendre l'avantage sur les Athéniens. Et après, du coup, les Athéniens ils protestent et du coup ça part en guerre.
Donc je te remercie beaucoup et puis voilà. Enrico, remercie-le quand même.
Merci beaucoup pour cette présentation.
Le titre qu'on va passer, ce sera Nirvana.
Bring your friends.
Alors, nous revoici à l'antenne. Nous allons maintenant écouter Kylian et Otis nous présenter une star du football méconnue française, Kylian Mbappé.
Bonjour, je m'appelle Kylian. Je suis footeux. On va vous parler d'un footballeur exceptionnel du nom de Kylian Mbappé.
Bonjour, je m'appelle Otis. Nous sommes en classe de 3e prépa métier. Alors, Mbappé est footballeur professionnel. Il a été formé à Monaco, puis a signé au PSG.
Kylian Mbappé est un footballeur français né le 20 décembre 1998 à Paris. Il a grandi dans une famille de sportifs qui lui a très tôt le goût de l'activité physique et particulièrement du football.
En effet, son père est un ex-footballeur aux racines camerounaises, ensuite reconverti en tant qu'entraîneur. Sa mère, elle, s'est fait connaître en tant que joueuse dans le milieu du handball. Kylian Mbappé a un grand frère, lui aussi connu en tant que footballeur professionnel, Jires Kembo. Quant à son petit frère, Ethan, tout porte à croire qu'il va suivre lui aussi les traces de ses aînés en se consacrant au football.
Lors de sa saison 2015-2017, Kylian Mbappé remporte le championnat de France au sein de l'AS Monaco. Il devient de ce fait le meilleur espoir du football dans le monde entier. En mars 2017, alors qu'il a seulement l'âge de 18 ans, il est sélectionné pour la première fois dans l'équipe de France fin août de la même année. Il est transféré au PSG où il occupe le poste d'attaquant.
L'originalité du style de Kylian Mbappé réside avant tout dans sa rapidité de jeu qui fait de lui un joueur largement apprécié. Dans le milieu sportif, on le compare régulièrement à Thierry Henry. Kylian Mbappé est classé 7e au Ballon d'Or 2017. Il rejoint la
Pour
section de Didier
qui
Deschamps.
Qui est Thierry Henry ? Thierry
qui
Henry.
Est un grand joueur français qui jouait à l'ancienne.
Au foot.
Merci.
De rien.
Vous pouvez continuer.
J'en étais où ? Il rejoint la sélection de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018 et le remporte avec beaucoup de fierté. Lors de la dernière Coupe du Monde 2022, il a réalisé un exploit en marquant 3 buts et gagne le trophée du meilleur buteur.
Kylian Mbappé est aimé par son talent sur le terrain, mais aussi pour sa maturité et son grand cœur. Il est très actif au sein de l'association Premier de Cordée dont il est le parrain. Il a d'ailleurs donné l'intégralité de sa prime touchée grâce à la victoire de la France au Mondial 2018 à cette association, je sais pas dire ce mot, soit un montant estimé environ à 350 000 euros. Pardon.
Le joueur est surnommé Donatello en raison de sa ressemblance avec la célèbre Tortue Ninja.
Ah oui,
on espère qu'il gagnera la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, car c'est les deux plus gros trophées qui lui manquent.
Bah, merci de nous avoir écoutés.
J'aurais quelques questions avant de vous remercier.
Bah oui.
Voilà. D'accord. Bon, bah, j'en ai plus. J'ai oublié.
Bah,
alors, merci beaucoup pour cette présentation de Donatello. Tout de suite, après la musique, nous allons écouter les Dr Love nous apprendre l'art de la séduction. Qu'est-ce que je prends ?
Nique le monde est au noir. À 130 dans la ville, donc la voiture vole quand je prends les dodas. Il n'y a rien de marrant, si tu cries pas t'es pas rémunéré. Je reviens plus chaud qu'avant, le Boumara me dit que c'est mort pour eux. J'ai du papier à multiplier, pas le temps pour les futilités. Je les pèse dans tous les sens du terme, c'est une fatalité. J'ai remonté des rimes et j'en ai des logis. J'attends Beta Omega dans le Toki Walkie. Le pétard est dans le smoking. Puis chez Philippe, je fais du shopping. Et les condés me veulent en shooting. Ils me prennent pour Totorina ou John Gotti. La vie c'est dur, je vais pas te faire un croquis. Tout le monde voulait croquer, mais le gâteau n'est pas assez gros. Quand j'avais soif, aucun d'entre vous m'a passé de l'eau. Je suis passé devant, aujourd'hui tu vois que c'est chaud. Et là tu voudrais j'ai mort, mais là c'est mort. Je suis dans la chop avec NICE. Quick et MOUSS. J'ai mis le succès dans le GPS. Nick la mère au SS. Nick la mère au SS. Bye bye bye. Je n'oublierai pas les coups de fouet. Je n'oublierai pas le coton et les colonies. Je les entends rapper, raconter que des calomnies. Bande de fois. farceurs. Vous n'avez jamais été du côté des chasseurs. Nouvelle liasse, nouvelle yaralée, nouvelle paire de chaussures.
Je finirai assassiné comme ceux qui disent la vérité.
Je finirai assassiné comme ceux qui disent la vérité. Épargne-moi tes bobards, tes baratins. Épargne-moi tes bobards, tes baratins. Si tu fais le fou, on revient pas à qu'un. On revient à trois, mais le chargeur est plein. Si tu fais le fou, on revient pas à qu'un. On revient à trois, mais le chargeur est plein. Recalé par le videur, un an après je suis payé par le patron de la boîte. Tu veux rentrer avec Annie, allez va mettre ta schneck à la station de lavage. Comment expliquer à son fils que je baisse sa maman quand son papa travaille. J'ai gagné la guerre, pourtant je perdais la bataille. Il n'y a que les bonhommes qui montent à bord. Ma génération me fait peur. Elle veut Louboutin et Chanel, mais elle ne sait même pas faire des pâtes au beurre. Et si ça graille, moi je veux ma part. C'est pas les miettes qui m'ont calmé ma faim. À l'école j'étais calé dans le fond. Quand y'avait les chemises, je la calais dans le fion. Et tous ces vendus attendent la rédemption. Attendent la rédemption. Charbon, charbon, détention. Pour la réinsertion, ce sera manutention.
Ouais, ouais. On laisse un peu pour l'album. Bye bye. Bye bye.
Alors, voici, on se retrouve avec les Dr Love. Nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve sur Onde FL pour l'émission Section Low and Love. On se retrouve aujourd'hui avec deux docteurs en séduction, Dr One Touche et Dr Chibrax, ainsi que moi-même, Dr Ferreira. Voici le programme de One Love. Alors, au début, on va parler des définitions, donc l'OPSA, ce que ça veut dire, BDH, Charo et DM. Après, on va parler de tous les processus pour séduire une donzelle. Après, on va parler de quelques petites astuces pour attirer une lionne. Et pour finir, comment ne pas se faire choper en train de tromper sa gadji. Je vous laisse avec Dr One Touche pour la première définition.
Salutations, mes amis en période hormonale. Maintenant, je vais vous expliquer la définition de BDH. Alors, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire BDH ? C'est bandeuse d'hommes. Alors, ce sont des femmes qui vont courir après les hommes. Donc, elles ne les comptent pas, hein. Dizaines, vingtaines, trentaines, elles n'hésitent pas. Hein. Elles sont croisées, elles lui sautent dessus, elles vont lui demander son snap, son insta, afin de lui parler tous les soirs, de lui rentrer dans la tête, afin d'obtenir quelques petites faveurs de sa part.
Merci Dr One Touche. Je vous laisse maintenant avec Dr Chibrax pour la définition de l'OPSA.
Bonjour mes petites donzelles, je vais vous exposer la définition de l'OPSA. L'OPSA veut dire c'est une femme qui va toujours vers l'homme afin d'obtenir des relations sexuelles gratuites. Elle s'habille très légèrement toute l'année pour attirer l'attention de l'homme.
Merci Dr Chibrax de m'avoir laissé l'opportunité d'expliquer la définition de Charo. Alors Charo, qu'est-ce que c'est au final ? Alors c'est une personne, donc le plus souvent c'est un garçon, qui va être toujours attiré par les femmes, rester avec un groupe de femmes. Aussi on peut dire que c'est aussi à peu près un BD. Un BD... Oui, bien un BDH, tout à fait, docteur Wendouche.
BDF.
Tout à fait. Après, nous allons passer maintenant à l'intervention de docteur Wendouche pour la procédure de séduction d'une charmante demoiselle.
Comment pécho une donzelle ? Cette technique ne fonctionne que sur des donzelles que vous connaissez un minimum. Première étape, se rapprocher de la proie. Ensuite, on vient récupérer son compte Insta à l'aide d'un ami ou d'une connaissance qui le possède. Après une analyse approfondie du compte, vous devez savoir ce qu'elle aime, où elle traîne, avec qui et pourquoi. Vous devez tout connaître sur sa vie. Et ensuite seulement, vous pourrez la DM. Après, si cette première étape est bien exécutée, vous serez en mesure de construire un DM parfait qui sera évidemment accepté par la proie. Par la suite, en découle une discussion longue et ennuyante, mais nécessaire si vous voulez la pécho. Les femmes aiment les belles paroles. N'hésitez pas à mentir sur votre vie, sur votre physique, votre travail ou vos professions. À utiliser avec modération pour ne pas lever les doutes. Après, proposez un rendez-vous qui sera normalement accepté si vous suivez toutes les étapes à la perfection et laissez la magie opérer.
Merci Dr Wendouche. C'est maintenant au tour de Dr Chibrax de nous expliquer les principaux actus pour attirer une lionne.
Pour attirer une donzelle, il faut obligatoirement bien s'habiller. Il y a plusieurs styles vestimentaires qui attirent différentes catégories de femmes. Il y a les skaters, la costéenne ainsi que le streetwear. Il faut aussi respecter la coiffure. Il faut toujours être bien coiffé. Il faut aussi avoir une odeur corporelle qui va retenir l'attention des donzelles quand elle va passer à côté de vous. Avec une petite chance, la dame viendra vers vous afin de vous aborder.
Et pour finir, Dr Wendouche va vous expliquer comment ne pas se faire choper en train de tromper sa gadji.
Donc bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, l'être humain est polygame et non monogame depuis l'éternité. Donc pourquoi se contenter d'une femme quand il y en a plus de 4 milliards sur la planète ? Donc vous êtes marié ou en couple, peu importe. Le plus important, c'est de détourner son attention. Trompez-la pendant qu'elle est occupée, avec un ami ou au travail. N'hésitez pas à faire ça pendant le mercredi après-midi, à la fin des cours ou le week-end quand vous n'êtes pas là, en déplacement professionnel par exemple. Il faut faire attention à ne pas se déplacer dans les endroits où elle a l'habitude de traîner, les mêmes bars ou les boîtes encore où elle va. Et bien évidemment, ne pas pécho ses copines, sinon c'est terminé.
Merci Dr Mantouche, maintenant je vais vous remercier d'avoir été là et je vais redonner la parole à vous.
Merci beaucoup de ces conseils et ce que vous m'avez pris aujourd'hui. J'aurais quelques questions à vous poser. Alors, pour sentir bon, avez-vous une suggestion de marque ?
Alors, il y a le Sauvage de Dior. Ils sont très très bons et les femmes adorent.
Très bonne marque. Très très bonne marque. Je conseille aussi.
Je vois, je vois. Alors, c'est tout. Je vous remercie.
Est-ce que vous aurez une petite anecdote à nous raconter ?
Moi, personnellement, je... C'est gênant, on est en caméra.
D'accord, d'accord.
Alors oui, j'essayais de pécho, comme vous dites, une donzelle. C'était il y a 2 ans. Elle faisait, du haut de ses 1m40, un petit visage tout ce qu'il y a de plus mignon sur la planète Terre.
Je comprends.
Parlez tranquillement, j'ai même lâché de l'argent sur elle. Je l'ai invitée au McDonald's, 50 euros. Je lui ai donné un McFlurry au chocolat.
Vraiment ?
Très dur, très dur. Je comprends.
Elle n'a même pas fini.
Non. Oh. Ah.
Deux semaines après, sur Snapchat, j'étais tranquillement en train de parler avec elle. Puis, au bout d'un moment, je lui ai avoué mes sentiments pour elle. Et là, elle me sortit la phrase suivante. Désolé, mais je préfère qu'on reste amis.
Aïe, la friendzone, c'est dur.
La friendzone.
On l'a tous
connu. C'est dur.
C'est
une chose qui arrive.
C'est très dur. C'est très très dur.
Puis ensuite, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle aimait pas chez moi. Elle avait dit, elle voyait pas ce qu'il y avait d'intéressant chez moi.
Deux mois après,
je l'ai vu sur Insta, en story, avec un mec qui s'appelle...
Non, ne citez pas les places, monsieur. Je voulais.
Ouais. Oui. On est sur de la BDH.
Je suis tombé dans le piège en fait.
D'accord.
J'ai moi aussi une petite anecdote à vous raconter.
Allez-y.
Lors de mes époques de folie, j'ai pu rencontrer beaucoup de femmes. Il m'est arrivé de me déplacer le mercredi après-midi pour aller les voir. Une fois je me déplace, je prends le tram, je vais donc à l'adresse indiquée sur le message et je me rends compte en ouvrant la porte que ce n'est pas la bonne. C'était celle de la semaine dernière.
Ah.
J'étais un peu les fesses entre deux chaises, comme on dit.
C'est ça.
Bon, j'ai quand même été. Hein. Je me suis excusé auprès de l'autre. J'y étais la semaine d'après. Mais c'était un peu gênant quand même. Voilà.
Alors, comme diraient les jeunes, m'as-tu dit, Charo ?
Bien vu.
Très, très fort.
Quelqu'un d'autre a une anecdote à raconter ?
Docteur Chibrax ?
Du tout. Et vous ?
Du tout.
Alors, on va vous poser des questions plutôt drôles. Qui entre vous pense être le plus charo ?
Pas moi.
Je pense être le meilleur à ce domaine, même si je me suis rangé il y a très peu de temps.
Ah ouais ?
Oui.
Il a arrêté les affaires.
Tout à fait.
Fini les bêtises. Quoi.
La grande
les
folie. Bêtises.
C'est ça.
Ah oui, je vois. C'est parce que vous avez arrêté que vous avez pu parler à la radio, là.
C'est ça, totalement. Sinon, je me serais été. Totalement. Je donne mes conseils pour mes collègues qui sont peut-être dans leur période de folie.
Un peu n'y arrive
pas.
Je vous remercie.
De rien.
Maître du fast beat.
Forcément.
Batifolage.
De rien.
Bon, c'est sur ce qu'on finit. Alors, vous êtes sur On Défèle, la radio 100% lycéenne. N'hésitez pas à nous retrouver demain sur yeps.fr, #ad, à 9h30. Hein. Soyez connectés.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Tout pris quand tu dormais, personne m'a vu rentrer. Allongé sur le canapé, j'suis dans la maison hantée. Le réseau est démantelé, la nourrice est affolée. L'enquête sera menée, et des prénoms sont donnés. Croquer le fruit défendu, assis sous le pommier.
J'ai promis d'être le premier qui t'a triché pour gagner. Je les entends plus quand ça tire, c'est nous les plus armés. J'ai pas reculé devant l'ennemi, toujours fait ce qu'il fallait. Le sol s'allumera quand on militine. Si t'es la bonne, je te présente ma daronne. Un max de papier et je me tire d'ici. Je me vois pas mourir en star du hip-hop. J'ai trop mal à la vie, mais j'ai pas l'antidote. Je recrache pas haine derrière l'antipop. De l'argent sale reconverti en propre. Investir dans un commerce qui rapporte. Je suis dans le check-car, je ne souris pas. À part quand un vrai frère ressort de tôle. Plus de clients, plus de liards. Même sous commission, on ne fait pas de pause. Ma chérie voudrait que je lui offre une rose. Mais tout ce que j'ai à donner, c'est une dose. Je suis dans le check-car, je souris pas. À part quand un vrai frère ressort de tôle. Plus de clients, plus de liards. Même sous commission, on ne fait pas de pause. Ma chérie voudrait que je lui offre une rose, rose. Mais tout ce que j'ai à donner, c'est une dose. Ne crois pas que tout est agréable. Henny, c'est la voix du peuple. Une cagoule, un pétard, une mécane suffiront pour refroidir tes potos. Il a fallu se débrouiller. Derrière moi, je n'avais zéro grand frère. Dans une chambre d'hôtel, j'ai rien dessoulé. C'est un peu frais, donc je la fume en perse. Maman me disait, dans la moussica, il n'y a pas de futur. Mais les disques d'or accrochés sur le mur, faut que je la rassure. Avant-hier, je.
Chime, Capone Inc. Let's go!
On vit tous à la recherche de voir si la rue est vers l'or. Échappé au quotidien, sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, roman, lève ta main et crie victoire. Personne ne pourra me dire qu'on vit de rêve et d'ambition. Les jeunes ont perdu le sourire, le désespoir tue l'inspiration. Faut pas se laisser aller, la vie est trop court, jamais abandonner. Faut garder sa route.
Dire que je n'ai pas
le courage, c'est comme tout abandonner.
Dire que je ne peux pas,
c'est comme balayer la chance qui m'était donnée.
Dire que je n'ai pas
la force, c'est comme tout abandonner.
J'ai survécu jusqu'ici, oh, oh. C'est pas pour tout recommencer. Puis tous à la recherche de voir si la rue est vers l'or. Échapper au quotidien, sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, oh, oh. Lève ta main et crie victoire. Toujours penser que ça ne peut arriver qu'aux autres. Se dire que tant pis, on n'a pas de chance. Et la vie essaie de sa faute. Faut pas se laisser aller. On est jeune, l'avenir est devant nous. Jamais abandonner, c'est plus fort que tout. Dire que je n'ai pas
le courage, c'est comme tout abandonner.
Dire que je ne peux pas,
c'est comme balayer la chance qui m'était donnée.
Je n'ai pas
la force, c'est comme tout abandonner.
J'ai survécu jusqu'ici, oh, oh.
C'est pas pour tout recommencer.
Puis tous à la recherche de croire si la rue est vers l'or.
Échapper au quotidien, sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, oh, oh. Lève ta main et crie victoire.
Mes sœurs dans les quartiers, yeah.
Lève ta main et crie victoire.
C'est pour ceux qu'on oublie les postes de demain, les stars de demain.
Lève ta main et crie victoire.
La peur qui n'ont peur de rien, qui n'ont le cœur à rien parce que le crime paye trop bien. Lâche l'affaire, homie, choisis tes pères, homie, positionne-toi.
Lève ta main et crie victoire. Je suis tous à la recherche de gloire, c'est la rue et vers l'or. Échappé au quotidien, sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, oh, oh. Lève ta main et crie.